Dans la grande table des idées aujourd'hui, nous allons revenir sur l'immense parcours, 65 ans de carrière au cœur des dossiers de l'avocat pénaliste Maître Henri Leclerc, qui rendra sa démission au barreau de Paris demain. Quelles sont ses réflexions sur l'état de la justice aujourd'hui et sa profession au moment où il la quitte? Lui qui a été de tous les grands procès du demi-siècle passé, défenseur des militants de mai 68, mais aussi des mineurs, des pêcheurs bretons et de tant d'autres, témoin des évolutions de la justice, mais aussi de ses failles, de ses manquements. Président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, ses mémoires « La parole et l'action » publiées en 2017 ressortent aux éditions Pluriel et s'interrogent sur la justice et sur l'existence de peines justes. Il est aujourd'hui avec nous autour de la grande table. Maître Henri Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Il y a des heures où je me demande si l'on me comprend, si le public admet qu'un avocat puisse aimer le pire des hommes. Je voudrais m'expliquer là-dessus et dire très simplement les choses que j'ai ressenties, car je pense qu'il est plus facile d'exprimer une émotion que d'exprimer une véritable raison. Des raisons, j'en ai pas. Des émotions, j'en ai beaucoup éprouvées. C'est d'abord une première impression qu'on éprouve en présence d'un homme, le pire. C'est qu'il est tout seul. Tout seul en face d'une machine terrible qui s'appelle la justice. Et dans le cas particulier, lorsqu'il est indigne, lorsqu'il est le pire des hommes, la machine en question se prépare à l'écraser, à le broyer.
Maître Leclerc, on vous jette tout de suite dans l'arène, c'est Albert Nau.
Oh bah oui. Hein,
peut-être quelques mots du maître, oh bah de votre écoutez, maître en tout cas.
Je suis très ému. Je suis très ému parce que d'une part, j'ai reconnu sa voix tout de suite. Et deuxièmement, j'ai l'impression que ce qu'il dit, c'est ce que je dirais moi. C'est-à-dire qu'il m'a tellement dit de choses. Je l'ai tellement vu vivre pendant les 10 ans où j'ai travaillé avec lui que tout ce qu'il vient de dire là, j'ai l'impression que j'aurais pu le dire presque avec les mêmes mots. Et voilà, c'est donc essentiel. C'est-à-dire que c'est l'attitude même de l'avocat. C'est-à-dire que c'est celui qui reste.
Les défendre tous.
Les défendre tous. Et puis, être le dernier qui reste. Parce que vous avez des fois, c'est terrible. Vous avez un homme qui est écrasé par la machine et tout le monde est contre lui. Mais une fois, la première affaire d'assises à laquelle j'ai assisté, c'était un type qui avait fait des choses vilaines. Enfin bon, il avait tué pour voler, c'était bon. Et tout le monde l'a câblé. Moi, j'étais au fond de la salle là, et tout le monde l'a câblé. C'était terrible. Les experts disaient qu'il était pas fou, mais qu'il était méchant et dangereux. Les témoins, bon. Et à la fin, on ne voyait plus, l'avocat général faisait un discours, on ne voyait plus que ses mains qui étaient sur la barre. Et il y a un avocat qui s'est levé et qui a dit « Et s'il n'en reste aucun, je serai celui-là ». Cette citation de Victor Hugo m'a paru être le sens même du métier que j'allais faire.
Alors là, dans l'archive, c'est une archive du 16 mars 69, quand il parle de les défendre tous et du pire, Albert Nau sait de quoi il parle ?
Mais absolument.
Lui qui a été commis d'office pour Pierre Laval.
Il avait été commis d'office pour Pierre Laval et il n'a pas pu plaider.
Il n'a pas eu accès au dossier.
Il n'avait pas eu le dossier. L'audience était horrible, il était injurié par les jurés. Le président soutenait les jurés contre lui. Et donc, Laval ne pouvait plus s'exprimer. Et Laval a quitté l'audience. Le président l'a chassé d'ailleurs. Il n'a pas voulu. Bon, ça a été horrible. Et Nau n'a pas plaidé. Et Laval a été condamné à mort. Après, il a été exécuté dans des conditions effroyables, puisqu'il avait tenté de se suicider, on lui a lavé l'estomac, et finalement, on l'a traîné au poteau. Bon. Et pour moi, c'était très important, parce que Laval était le prototype de l'homme qu'on devait détester pendant la guerre. J'étais enfant pour mes parents. Et que mon père était très en colère sur ce procès qui n'avait pas eu lieu. Et donc, ça a été qu'après j'ai travaillé chez Nau, pour moi, c'était formidable.
Alors cette idée justement de la justice, mais aussi de votre métier d'avocat, Maître Henri Leclerc, vous avez prêté serment en 1955.
Le 15 décembre 1955.
Alors on disait une boucle presque parfaite,
parfait, 65 ans.
Demain, vous démissionnez oui, du barreau oui. Et vous avez été le témoin, mais aussi l'acteur de grandes évolutions de la justice. Oui. Alors Il y a eu 68. Là, c'est aussi le croisement entre vos activités militantes et vos activités d'avocat. Peut-être on peut revenir sur cette période-là.
Absolument. Je crois que j'ai toujours été à la fois un militant et un avocat. J'étais militant, bien sûr, avant d'être avocat. Et je suis resté un militant. Mais en mai 68, les deux choses se sont réunies. C'est-à-dire que, comme militant, certes, j'avais défendu, par exemple, mais j'étais tout jeune, des gens du FLN, des Algériens. Pour peu. Par contre, là, en mai 68, je me suis trouvé au cœur de cette insurrection vouée à l'échec, et j'ai donc défendu tous ces gens-là. Et après, je les ai défendus. J'ai défendu ceux qui n'avaient pas compris que c'était fini et qui continuaient un peu. Et donc, c'est vrai que là, j'ai croisé mes activités professionnelles et mes activités militantes. Ça m'a amené d'ailleurs à changer, y compris les modes d'exercice de ma profession. Et après, je suis resté militant, non pas tellement militant politique, enfin, pas engagé dans un parti politique. J'étais membre du bureau national du PSU avant, à côté de Michel Rocard. Et puis après, j'ai milité pour les droits de l'homme et je suis devenu président de la Ligue des droits de l'homme en 1995.
Et depuis la faculté, en réalité, il y avait quand même un engagement politique personnel, au sens où vous étiez opposé, par exemple, étudiant à la seule association des représentants d'étudiants, la Corpo, l'opposition à Jean-Marie Le Pen, qui s'est terminée, paraît-il, par une gifle.
Ah oui,
une histoire de gifle avec Le Pen.
Non mais Jean-Marie Le Pen, c'était la première réunion politique à laquelle j'assistais, alors pour un président syndical, donc d'étudiants, et les élections avaient été plus ou moins manipulées, on les fera annuler d'ailleurs après, et on perdra définitivement parce que la faculté de droit n'était pas très à gauche, et comme je m'agitais des hauts de mes 18 ans, j'avais tout juste 18 ans à l'époque, J'ai pris une gifle et c'était Le Pen et nous nous sommes battus. Et donc, moi, mes contacts avec Le Pen ont été assez étroits.
Assez étroits et continuent. Par la suite, il va y avoir des grands procès. Cette idée de la justice, j'ai relevé plusieurs citations dans lesquelles vous dites que vous n'êtes pas convaincu de l'existence de peine juste. Alors, peut-être vous pouvez nous faire état de cette réflexion. Vous avez été à la fois militant des droits de l'homme, mais en même temps, ce sont les droits de la défense que vous avez incarnés, plutôt parfois partie civile, mais rarement, Maître Leclerc. Alors, quelle idée de la peine, justement, s'il n'existe pas
difficile.
De peine juste alors, qu'est-ce que...
C'est très difficile. C'est très difficile parce que le problème de la justice, personne ne conteste le fait qu'il faut bien répondre aux illégalités, il faut bien répondre aux choses qui sont interdites, aux gens qui commettent des choses qui sont interdites et puis qui peuvent porter atteinte à d'autres personnes, etc. Mais la peine, qu'est-ce que doit être la peine ? Il fut un temps où la peine de mort était essentielle. C'est un acte de barbarie, c'est mon avis, mais... Il y avait beaucoup d'autres peines, il y avait la torture, il y avait mille façons de donner la mort, on cherchait à donner la mort la plus cruelle. La Révolution française, les Lumières et la Révolution française ont abrogé ça, ils l'ont remplacé par une seule peine, qui est la prison. Certes, on a trouvé un certain nombre de peines alternatives, on enlève le permis de conduire aux conducteurs qui ont fait des bêtises, on a toujours il y a des travaux alternatifs, on peut trouver des choses, mais au fond, au cœur de tout cela, il y a toujours la prison.
L'école du crime,
Victor Hugo. Alors bien entendu, la prison, c'est l'école du crime. Victor Hugo disait, ouvrez une école et vous fermerez une prison. La prison est destructrice. Non seulement c'est une peine cruelle, non seulement la vie dans les prisons est horrible, non seulement nous savons aujourd'hui l'état des prisons françaises, mais en plus elle est destructrice. Moi j'ai défendu beaucoup de petits délinquants. J'ai défendu aussi des grands criminels, des voyous professionnels. J'en ai défendu tous ces voyous professionnels, ces grands bandits. Tous, ils me disent qu'ils ont commencé leur carrière dans la première phase, dans la première fois où ils sont allés en prison. C'est là qu'ils ont appris à devenir des bandits.
Alors et vous, donc, qui êtes intervenu dans ce qu'on appelle les flags, mais aussi les comparutions immédiates.
C'est ça. Ça a changé de nom, mais ça n'a pas changé de réalité.
Qu'est-ce que vous pensez justement de la réponse que pourrait apporter la justice à ces questions-là ?
Moi, je pense que évidemment, un certain nombre de gens disent que je suis un doux rêveur. Mais je pense que la première réponse, c'est bien entendu une réponse par l'éducation. C'est une réponse par la prévention. Mais la prévention, elle existe. C'est-à-dire qu'il est évident que la délinquance, elle se forge, la délinquance plutôt grave, la délinquance de violence. Bien sûr, elle existe dans tous les milieux. Mais enfin, chacun sait que cette délinquance des flags dont vous parliez, cette délinquance de la comparution immédiate, des gens qui se sont fris, le préfet prendre la main dans le sac, un trafic de stupéfiants, qui peut être très grand, mais qui commence par être petit en général.
Vous, ça a été l'histoire de vos débuts, le premier homme que vous avez défendu, oui. Je crois. Ça a été quelque chose d'assez traumatisant que de voir une condamnation tomber alors que vous pensiez avoir bien plaidé.
Le premier homme que j'ai défendu, c'était un voleur de voiture. Et ce voleur de voiture, à l'époque, on leur donnait des livres à la prison. C'était bien. Alors, il y avait un chariot qui passait dans les coursives et on leur donnait le livre qui était sur le dessus de la pile. C'était pas question de choisir. Alors, ça pouvait être tout. Ça pouvait être L'habitant chez les Gaulois ou un roman de je sais pas qui. C'est bon. Et il y avait eu le deuxième volume des Misérables. Alors, il m'a dit, j'ai eu un livre formidable, il me l'a raconté. Moi, j'ai pas eu de mal à reconnaître ce que c'était. Je me suis précipité chez un bouquiniste. J'ai acheté les Misérables en 4 volumes. D'occasion, et je l'ai apporté à la prison. Le directeur m'a dit, mais vous êtes fou, mon pauvre ami. On ne peut pas donner un livre à un prisonnier. Et j'ai pas pu le lui donner. Et j'ai compris que ce type, il était intelligent, il pouvait comprendre. Et on aurait pu le sauver complètement. Après, il est devenu délinquant, il a été condamné à une lourde peine de prison. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Alors que je savais que si on s'était occupé de lui, si on simplement, on avait parlé avec lui, si simplement, il était capable de lire tout ce qu'on voulait, il était... C'est extraordinaire. Eh ben oui, ça m'a profondément marqué. Et chaque fois, les petits délits, vous savez, la deuxième affaire que j'ai eue, là, c'était ça, je l'ai tellement raconté, un Yougoslave qui avait bu du lait le matin. Vous savez, on mettait devant les boutiques des casiers pleins de bouteilles de lait, et alors il venait, il ouvrait l'opercule. Il buvait une gorgée, il remettait l'opercule, bon, c'était tout, il avait volé une gorgée de lait.
Et il a été condamné à 6 mois ferme.
6 mois ferme. Et vraiment, j'étais content de ce que j'avais plaidé, j'ai compris que ce jour-là, que ça servait à rien.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, c'était le verbe qu'il avait emporté?
Absolument. Ce jour-là, je me suis laissé griser par ma parole. Et ça, c'est ridicule. Il faut pas être grisé par sa parole. Il faut penser qu'il y a une chose, on parle à des gens qui vont juger. Ils sont pas plus mauvais que d'autres, hein.
Alors dans certains articles, il y a des témoignages de vos confrères qui disent « Maître Henri Leclerc, quand il est dans un tribunal, il devient l'accusé, il incarne l'accusé, il devient cet accusé-là enveloppant et qui arrive à exister en tant qu'être humain devant les jurés. » C'est ça la technique?
C'est ça la
stratégie d'avocat? Parce qu'il y a une stratégie d'efficacité quand même.
Bien entendu, chaque avocat est ce qu'il est. Moi je sais que je me trouve en face de quelqu'un que tout le monde déteste, je suis seul, hein. Et s'il n'en reste aucun, je suis là à la fin. Et je suis seul, et il y a des gens qui vont le juger. Alors évidemment, ça peut être des méchants. Là, je ne vais pas y arriver. Mais c'est souvent des juges, c'est-à-dire des gens qui cherchent. Et là, ce qu'il faut, c'est que j'ai envie de les convaincre. Et pour avoir envie de les convaincre, Alverno parlait de l'émotion tout à l'heure. Il y a l'émotion, c'est un des éléments, mais la raison en est un autre. Et il y a des gens, quand on a envie de convaincre quelqu'un, on l'aime d'une certaine façon, lui aussi. En définitive, on a un trait d'union entre quelqu'un que tout le monde déteste et quelqu'un qui va rendre un jugement. Et ce que je voudrais, c'est montrer que celui que tout le monde déteste, il faut quand même l'aimer parce que c'est un être humain. Nous sommes les porteurs de fraternité.
Alors, il y a eu cet exemple célèbre dans votre carrière, celui de Richard Roman, oui. Accusé de viol, qui est une des affaires qui a marqué votre carrière.
Oui.
Pourquoi être avocat de la défense? Quelle particularité? Qu'est-ce que vous défendez, vous, en tant qu'avocat? Qu'est-ce que vous incarnez en tant que défenseur?
Je défends un être humain.
Mais les parties civiles aussi sont du côté des humains.
Je ne nie pas les parties civiles. Mais les parties civiles, ce sont des gens qui ont souffert. Les parties civiles, personne ne condamne les parties civiles. Bon. Là, c'est un homme qui est seul. Il est seul face à une machine. Il est seul face à un système qui veut que l'État a demandé à la justice de punir. Et là, il faut montrer aux jurés, et moi ce que je cherche à faire, c'est montrer aux jurés que c'est un être humain. Alors, je plaide pour lui, je plaide en par lui parlant aussi, d'une certaine façon. Je veux lui montrer qu'il est jugé, vraiment. Et les autres, il faut les convaincre qu'ils jugent un être humain et que la violence de la sanction n'est pas forcément la bonne solution. Bien entendu, dans Richard Roman, il y a un autre problème essentiel. C'est que celui que l'on défend est accusé de choses horribles et est innocent. Et alors ça...
Mais pourtant, il y a eu des aveux, et ça, ça pose encore d'autres, alors, questions. La question des preuves que représente
avoué,
l'aveu.
Il a avoué dans des conditions effroyables. La petite fille avait été tuée dans la nuit, on sait par qui maintenant, bien sûr, par celui qui l'accusait, d'ailleurs. Et c'est ceux qui l'ont entendu, ce sont les gendarmes du village. Vous voyez, récemment, là, il y a ces trois malheureux gendarmes qui ont été tués par un forcené, comme on dit, par un fou, par un malade. Bon, ils ont été tués. Vous avez vu la solidarité du village. Mais les gendarmes du village, c'est pas eux de mener l'enquête, c'est évident. C'est à eux de défendre, de trouver, de faire leur travail magnifique, quelquefois. Mais quand ils mènent l'enquête, quand ils interrogent celui dont ils sont convaincus, eux, que c'est le coupable, comment voulez-vous que cet interrogatoire soit objectif? Et c'est dans ces conditions-là que Richard Roman avait avoué.
C'est un questionnement justement sur tous les rouages que l'on va faire. Je vous propose d'écouter un confrère, Pierre-Olivier Sûr, dans Les Chemins de la philosophie, c'était le 27 septembre 2011.
La vérité pose un premier problème, qui est que, évidemment, elle n'existe pas. Et la preuve de ce que j'affirme là, c'est le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, c'est un gros bouquin rouge. Chacun l'a dans l'œil. Eh bien, le mot vérité n'y est indiqué qu'à deux reprises. Première reprise, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le serment du témoin. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, levez la main droite et dites « je le jure ». C'est extrêmement solennel. Mais c'est extrêmement solennel parce que c'est la seule fois, ou presque dans le code de procédure pénale, qu'on utilise ce mot-là, vérité. Pourquoi l'utilise-t-on ici? Parce que le témoin, effectivement, va dire sa vérité de ce qu'il a vu. Et la deuxième fois que dans le code de procédure pénale, il est indiqué le mot vérité, c'est pour le juge d'instruction. Mais dans la définition de l'intime conviction, il n'y a pas le mot vérité. Dans le serment que prête le magistrat le jour où il devient magistrat, eh bien, il n'y a pas le mot vérité. Et pourtant, c'est le serment du magistrat. Dans le serment de l'avocat, il n'y a pas le mot vérité. C'est-à-dire que le législateur comprend et sait évidemment que le mot « vérité » brûle comme une lumière.
Alors, le mot « vérité » brûle comme une lumière. Maître Henri Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Maître Sûr, ce rapport à la vérité qui traverse l'histoire de la justice de manière extrêmement ambiguë?
Oui, moi je suis un fanatique de la définition qui a été forgée en 1791, devant la Constituante, de ce qu'on appelle l'intime conviction. L'intime conviction a des rapports très étroits avec la vérité. Mais qu'est-ce que c'est? L'intime conviction, c'est, on dit aux jurés, de s'interroger dans le silence et le recueillement, dans le silence et de leur conscience, et de choisir entre les preuves rapportées par l'accusation et les moyens de sa défense. La vérité, c'est bien évidemment ce qu'on cherche. Mais pour déterminer la vérité, il faut qu'il y ait des preuves et que l'accusation doit rapporter des preuves. Et là, la raison doit faire un effort considérable.
Vous vous dites même que, d'une certaine manière, l'intime conviction est une preuve en soi.
Mais oui, mais bien sûr. L'intime conviction, c'est la seule preuve possible.
Et en même temps, on peut imaginer tout un tas de biais, d'ailleurs.
Mais bien sûr.
La raison d'être des cours criminels qui sont professionnels et qui excluent les jurés populaires.
C'est bien la raison.
Il y a cette idée d'un biais possible.
Bien sûr qu'il y a un biais possible. Et c'est bien la raison pour laquelle il y a des avocats. C'est bien la raison pour laquelle cette vérité, car il est évident qu'une condamnation doit être conforme à la vérité, enfin ça me paraît une évidence. Mais s'il y a des avocats, ce sont effectivement des avocats qui vont montrer que la vérité n'est pas forcément la vérité que l'on croit, n'est pas forcément la vérité. Vous savez, il y a la vérité des faits, puis il y a la vérité des êtres aussi. Un homme qui a commis un acte horrible, ben peut-être qu'il n'est pas lui-même aussi horrible qu'on le croit. Ça peut exister. Et puis surtout, Richard Roman, dont vous parliez tout à l'heure, il était accusé du plus horrible des crimes, c'est-à-dire d'avoir violé, tué, massacré une petite fille de 7 ans. Et le seul problème, c'est qu'il ne l'avait pas fait. Et donc, il fallait que réussir, malgré les aveux. Il fallait réussir à convaincre les gens que des aveux ne correspondent pas forcément à la vérité. Que l'âme humaine est tellement complexe que dans certaines situations, des aveux ne correspondent pas à la vérité. Et que ce n'est pas seulement la torture. Vous savez qu'autrefois, c'était très simple. Hein. On disait un aveu, c'est deux témoins directs et pas plus. Et puis ça, c'est l'aveu par l'aveu. Hein, la preuve, c'est l'aveu. La summa probatio. Alors pour hâter la summa probatio, la preuve, on torturait les gens. La question. Bon. C'est absurde. Mais il y a une certaine façon, par la logique d'un interrogatoire, par ce qu'un commissaire de police appelait la torture licite, par la façon de poser les questions, etc., à amener quelqu'un à l'aveu alors qu'il n'est pas coupable. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça m'est arrivé souvent, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et ça montre que la notion de vérité, on est bien d'accord, mais que la notion de vérité doit être établie par un effort considérable de la conscience et de la raison sur les preuves.
Alors qu'est-ce que vous avez vu, vous, par rapport à l'évolution, Maître Leclerc, de votre profession depuis que vous êtes avocat, en 1955, dans votre dernière plaidoirie, vous prenez la parole contre les enquêtes qui ont été menées justement par le parquet. Il y a cette question de l'affaire des dites des fadettes. C'était votre dernière plaidoirie, en quelque sorte la défense de la défense.
Oui, j'étais vraiment très... C'était un signe, c'était... que ma dernière fois que je prenais la parole dans une audience, je la prenne pour défendre les droits de la défense. Car effectivement, le fait de surveiller, de noter quels sont les clients d'un avocat, combien de fois il lui a téléphoné, quel est ce client, etc., c'est une atteinte au secret professionnel. Le secret professionnel, c'est essentiel. Il faut, comme le médecin...
Alors, sur la question de la mise sur écoute de certains avocats...
Alors ça, c'est autre chose. C'est encore pire, la mise sur écoute. C'est un autre problème encore.
Et de la trahison du secret professionnel.
Les gens disent, les fadettes, c'est pas une mise sur écoute. On a réussi, et comment difficilement à réussir, mais même pour les écoutes elles-mêmes, à obtenir des arrêts de la Cour européenne pour rendre les écoutes plus complexes, plus protégées. Et les écoutes d'avocats doivent être particulièrement protégées, évidemment. Pourquoi ? Parce que il faut que les gens aient confiance, qu'ils puissent parler à leur avocat sans dire que ce qu'il leur dit va être immédiatement une information. Non, parce qu'il faut dialoguer. L'avocat a besoin, si on veut défendre quelqu'un, il faut qu'il ait confiance en nous. Et pour ça, il faut savoir que sa parole est protégée, qu'on ne dira que ce qu'il voudra qu'on dise. Bon, ça c'est...
Ça, vous avez connu des progrès là-dessus depuis 81, le recours individuel devant la Cour européenne des droits de
l'homme. Mais pas suffisamment, et ce qu'on vient de voir, c'est dans une affaire particulière, j'entre pas dans le détail, c'est vrai, une dizaine d'avocats qui ont été, non pas écoutés, mais dont tous les clients ont été notés. Et ça, c'est pas bien. Bon, et c'est la dernière affaire que j'ai plaidée. Mais y a l'évolution, il y en a beaucoup. Ceci étant, l'évolution de... Notre système procédural est très archaïque. Nous avons un système procédural qui est très différent, par exemple, du système américain. Ça, le système américain, tout le monde le connaît. Et d'ailleurs, j'ai vu souvent, en flagrant délit ou en comparution immédiate, un accusé qui appelait le président « Votre Honneur ». Ça, c'est parce qu'il avait vu un certain nombre de séries américaines dans lesquelles on appelait le président « Votre Honneur ». Et le système américain a des défauts considérables, hein, considérables. Mais, en même temps... Le contradictoire, il est mieux respecté. Nous avons une procédure qui est archaïque. J'entre pas dans le détail. Mais notre système du juge d'instruction, alors il a évolué. C'est vrai. C'est vrai que j'ai participé à des commissions, dont une grande commission en 1991, la commission qui était animée par le professeur Delmas Marty, très grand juriste, professeur au Collège de France, etc., où on avait proposé une autre forme d'instruction préalable, en faisant en sorte que le juge d'instruction ne soit plus, l'enquête ne soit plus menée de la même façon. J'entre pas dans le détail. Alors c'est vrai que on a fait un progrès. En ce sens que le juge d'instruction ne place plus lui-même en détention. C'est un autre juge qui place en détention. C'est-à-dire que le juge d'instruction doit être dépossédé de ce moyen de pression instinctif qu'il a, qui est de dire à quelqu'un, bon, écoutez, c'est horrible ce qu'il y avait, bon.
Qu'on a vu à l'œuvre dans les grandes affaires, notamment des années 80-90, Petit Grégory et autres.
Voilà, on a vu des gens qui ont été en prison dans des conditions qui ne sont pas admissibles. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'en ai vu quand même un certain nombre. Je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le problème de la détention provisoire reste un problème grave. Mais on a amélioré un peu. mais on n'a pas repensé notre système.
Alors justement, pour repenser le système de la justice, c'est aussi la question des libertés qu'il faut questionner. Alors, question que vous avez étudiée à la fois en tant qu'avocat, mais aussi en tant que militant des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter François Sureau en parler dans le grand entretien de 8h20 par Nicolas Demorand et Léa Salamé, le 24 septembre 2019 sur France Inter.
Quand j'étais jeune, comme beaucoup de gens de ma génération, j'allais à l'école et puis notre maître, il n'y avait pas de photocopie, avait tapé à la machine un poème et il nous le donnait à commenter sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. Pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Et cette génération qui est, vous voyez le poème d'Éluard auquel je fais référence, et cette génération qui est la mienne 50 ans après, vit dans un pays où le gouvernement peut choisir ses manifestants, un pays où on continue d'enfermer les gens après l'expiration de leur peine, un pays où on censure la pensée, un pays où des juges ont qualité pour dire l'expression et censurer ou non l'expression d'une opinion, un pays où il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être condamnable, mais simplement d'en avoir l'idée. Rien de tout ça n'était concevable pour quelqu'un de ma génération. Et mon étonnement vient du fait que tout ceci s'est produit dans l'espèce de silence ouaté de la vie administrative auquel nous avons totalement cédé, à laquelle nous avons substitué notre idéal de la société politique elle-même.
Alors vous êtes d'accord avec ça, Maître Leclerc, ce climat liberticide ?
Il dit mieux que je ne le dirais ce qu'il faut dire, pour commencer. Ensuite, oui, nous sommes dans un... Faut pas exagérer. La France n'est pas un pays fascisant. Ce n'est pas la Hongrie, ce n'est pas la Turquie. Ça, c'est la première chose que je tiens à dire. Mais il n'empêche qu'il y a des dérives. C'est vrai que la France a été attaquée, par exemple, par les terroristes dans des conditions qui sont insupportables. Mais c'est vrai que la réponse qui a été donnée depuis des années, qui sont de faire des lois qui restreignent toutes les libertés. C'est-à-dire qu'elles restreignent les libertés des gens qui sont victimes du terrorisme, pas les terrorismes seulement.
Et lois de sécurité globale...
Ce que dit François Sureau est tout à fait exact. C'est-à-dire que on porte atteinte à la liberté de manifester, à la liberté d'informer. Bon, il y a quelque chose qui est très... Regardez, la dernière loi, la loi sur la sécurité globale, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Il y a au moins 5 ou 6 points, des drones, etc., qu'il faut. Mais il y a eu des manifestations sur un point qui était l'interdiction de diffuser des photos de manifestations, de crainte qu'on mette en cause des... Or, en même temps que cette loi a été faite et qu'un certain nombre de gens réagissaient, d'abord, il y a un fait de violence policière abominable qui a été révélé uniquement par des photos qui est celle de M. Éclair. Et c'est abominable, c'est vrai. Or, on voit bien qu'il fallait le faire. Et deuxièmement, dans les photographies de la manifestation qui a eu lieu à Paris, à la Bastille, on montre... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, il y a une manifestation, mais qu'est-ce qu'on montre ? On montre des violences insupportables qui ont été faites par quelques manifestants, tous ces très minoritaires, etc., qui frappent un policier au sol. Et je dis, c'est curieux, les policiers qui parlent de ça ne parlent que de cette photo. C'est donc bien qu'ils estiment qu'il fallait que l'information était nécessaire. Et bien entendu, aussitôt après, on voit effectivement des policiers qui frappent des militants dans des conditions qui sont inadmissibles, en particulier un photographe syrien. Bon, et donc l'information est nécessaire. Alors ce que dit Sureau, c'est ça. C'est-à-dire que si l'on rogne sur certaines libertés fondamentales, Le droit de l'information, qui est un des droits les plus précieux, comme dit la Déclaration des droits de l'homme. Le droit de manifester.
Pendant la crise sanitaire.
La
restriction des libertés individuelles en général.
Les libertés, c'est le fondement de la République. Et ça, il y a une façon de défendre la République qui l'attaque en définitive.
Et vous dites d'ailleurs aussi que le juge finalement garant des libertés primordiales et essentielles, vous avez assisté à un déclin du pouvoir des juges et de l'exécutif comme deux problèmes.
C'est-à-dire que le problème des juges, c'est que la fonction des juges qui est essentielle, qui partent de principes fondamentaux, qui sont les principes juridiques de protection des libertés. Le juge est gardien des libertés individuelles. Elle ne cesse d'être réduite. On ne cesse de transférer à des administrations, à la police, à ce que vous voudrez, les pouvoirs qui étaient avant ceux des juges. Or, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Nous sommes dans une société où le pouvoir du juge est une nécessité pour défendre les libertés.
Alors, d'autres questions se sont posées sur la question des avocats, notamment la porosité entre l'univers politique et celui des avocats qui entrent en politique, qui prennent des fonctions de plus en plus importantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là, qui d'une certaine manière a toujours existé, il y a toujours existé un certain nombre d'avocats parmi les hommes politiques, mais des avocats qui font une longue carrière et deviennent ensuite des hommes politiques de pouvoir.
Il fut un temps où les avocats étaient des politiques. Si on prend, par exemple, la période de l'affaire Dreyfus, Waldeck Rousseau était un avocat, Poincaré était un avocat. Bon, Clémenceau ne l'était pas. Son frère l'était, mais lui ne l'était pas. Mais c'est vrai que c'est une période où les avocats avaient une importance politique considérable. Ça a diminué. Aujourd'hui, ça avait considérablement régressé. Et puis, il y a des avocats qui rentrent dans la politique. Moi, je ne crois pas que la porosité entre la profession d'avocat et la profession politique sont importantes, si vous voulez. Bon,
ni des conflits d'intérêts.
Monsieur Sarkozy est avocat, mais enfin, il est avocat parce qu'il était homme politique avant. C'est pas ça le problème, c'est que c'est une reconversion. Bon, des avocats qui deviennent des hommes politiques. Moi, j'en connais deux qui sont de vrais avocats et qui sont devenus vrais hommes politiques. Le premier, c'était Robert Badinter. Robert Badinter est un très grand avocat. Et puis le deuxième, nous l'avons actuellement, c'est Éric Dupond-Moretti, qui était un très grand avocat et qui est devenu un homme politique. Mais ça, on n'a pas encore les éléments pour juger de son travail.
Donc il faut attendre. On va parler justement des libertés aussi. Je vous propose d'écouter René Cassin, c'est une archive du 15 décembre 69, son discours à l'occasion de la création de l'Institut international des droits de l'homme.
Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout. Il faut que les citoyens, et à leur tête ceux qui pensent, ceux qui agissent, doivent travailler eux-mêmes à approfondir les notions que les droits de l'homme impliquent et à essayer de changer peu à peu les mentalités de leurs propres concitoyens et de tous les êtres humains pour arriver à faire comprendre à chacun qu'au-dessus de la petite société locale ou de la plus grande société nationale dans laquelle il vit, il y a une société universelle, une société commune où doivent se rencontrer tous les êtres humains doués de raison et de conscience, mais aussi ayant d'immenses besoins de justice et de vie matérielle minima. Et voilà pourquoi nous avons fondé l'Institut international des droits de l'homme.
Maître Leclerc, une dernière phrase pour conclure cette émission sur ce qu'on vient d'entendre de René Cassin.
C'est évident, c'est essentiel, c'est fondamental. René Cassin est un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je rappelle simplement un point. Lorsqu'en 1789, on a fait la déclaration, 26 août 1789, on a fait la déclaration. Ils ont commencé en disant l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont la cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On croyait qu'on avait gagné. Et la première phrase que dit René Cassin, enfin que dit la Déclaration universelle, c'est l'oubli et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Donc c'est ce qu'il vient de dire sur l'universalité des droits est essentiel.
Merci Maître Leclerc. Demain, ce sera les au revoir aux barreaux. Mais on retrouve aussi vos mémoires ressorties aux éditions Pluriel ces jours-ci. On se retrouve nous demain pour une nouvelle grande table d'été, une nouvelle grande table de l'année. L'émission d'aujourd'hui préparée par Jean-Christophe Brianchon, Bruno Barada, Laura Dutèche-Pérez, Mathieu Bellini, Anouk Delfino et Madeleine Martineau. À la réalisation, Anna Holweg. À la technique, Audrey Guélil.